une présence de qualité, hein, dans le moment, elle est de qualité, elle n'est pas préoccupée, sous occupation, elle n'est pas blasée, elle est vivante, elle est vibrante, notre attention, puis en plus, elle est soutenue. Hein. C'est ça la pratique qu'on fait, comment établir une présence qui est forte, on pourrait presque dire, puis la maintenir, hein. C'est ça la pratique, là. Puis on voit là, toutes sortes de choses qui se passent, non? Oups, ça part dans ses habitudes mentales. Oui, mais moi, il faut que je pense absolument. Je sais pas quoi. Dans le futur ou dans le passé. Il faut que je raconte cette histoire-là. Il faut que je me décrive, que je me narre. Bon, là, je suis en cours de méditation. Ça fait déjà 2 ans que je viens de temps en temps. Je sais pas quoi, là. Cette fascination. Est-ce que ça vous arrive pendant la méditation, que ça tombe là-dedans, dans ce groove-là, dans cette track-là, là, qui est comme très assurant, hein? Parce qu'on nomme les choses, tu sais. Comme les enfants, là. Un enfant que je vois ces temps-ci. Chat! 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 Parti! Parti! C'est après ça, nous, on complexifie, là, t'sais. Mais c'est à peu près ça. Hein, ça reste comme ça. Chat! Chat! Et donc, c'est ça, on est assis ici, puis là, je suis là, là, j'étais là matin, là, je vais aller là plus tard. T'sais. Puis là, on est... ça devient un voile, un peu, là, qui nous sépare de la réalité. Là, ici, on traverse ce voile-là, là, courageusement. On va de l'autre côté, voir qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui est vibrant? T'sais? Ça peut être étonnant. On peut trouver peu de choses. Ah, mon Dieu, je fais une grosse histoire à propos de... juste un corps respirant qui entend. Puis moi, je suis comme très grandiose à propos de ça. Qu'est-ce qui va arriver à ce corps? Comment est perçu cet être? Alors, on revient peut-être à quelque chose de très, très simple ou bien peut-être quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce que c'est que d'être ce moi-là auquel je pense toute la journée, dont je m'occupe, que je prévois de toutes sortes de façons, ou anticipe de toutes sortes de façons. Je serai là, je me sentirai-tu de même? Quand j'aurai fait ça, ça va-tu être le fun? Comment je vais être? Puis là, on vient voir, mais c'est quoi cette affaire-là là, qui m'obsède? Qu'est-ce qui est là? C'est quoi l'expérience directe de ça? Alors, c'est une investigation, une exploration qu'on dit dans la pensée bouddhique, là, dans la pratique bouddhique, qui vaut vraiment la peine d'être faite pour plusieurs raisons. Peut-être une qui me vient à l'esprit juste là, c'est comment être. Comment être au milieu d'un être sensible. Hein? Alors on s'assoit ici, on s'assied, et puis on découvre constamment que c'est touché. Si on suit chacune des choses, on n'aura pas la chance de voir ça. Là. Si on suit tous les schémas de pensée, les habitudes de pensée, on ne pourrait pas voir ça, mais ici, étant pleinement conscient, ou un petit peu plus conscient, étant lucide, c'est ça l'idée, c'est d'être conscient de ce qui est en train de se passer. Ce qu'on va découvrir, c'est que c'est de la sensibilité. C'est juste ça qui se passe. De la sensibilité. Sensibilité. Sensibilité au chaud, au froid, sensibilité à la lumière, sensibilité au temps qui passe ou s'arrête, ou semble passer ou s'arrêter, sensibilité aux images qui flash by intérieurement, aux impressions. Hein? C'est des sensibilités très complexes. Hein? T'entends, tu sais que c'est une grappe. C'est pas une sensibilité juste de base, là, où est-ce qu'il y a un son. Non, il est organisé, il vient avec une image, une signification. Alors, nous, on s'assoit, on prend conscience de ça. Si on part avec, bon, je me demande, il va aller de suite. Ça se passe-tu juste dans le parc à côté? T'sais, on pourrait être complètement identifié aux pensées, mais là, on devient conscient du jeu, de la sensibilité. Le froid, le chaud, les impressions, même sensibles intérieurement. Il y a un mood qui est là, écœuré d'être là tout à coup, content d'être là, apaisé. On est sensible à ça, là, ces ambiances intérieures. Alors, on vient s'asseoir au milieu de tous ces jeux-là, quelle que soit la formation là, immédiate là, qui est là ce soir, à cette heure-ci du jour, de la semaine, de l'année. Là. Puis on découvre la sensibilité en fonction. Puis la chance qu'on a dans cette pratique-là, je pense, c'est de découvrir comment accompagner un système sensible. Comment accompagner ça avec calme, avec cœur. D'abord, c'est touchant de se rendre compte qu'on est touché constamment. Moi, je trouve ça très, très touchant. Ben, c'est sûr que ça pourrait mener à l'irritation. Mon Dieu! Hey! Ça l'entend toujours, ça ressent toujours des sensations. Je veux que ça arrête de proposer des affaires, des opinions, des préférences, des projections. Puis ça continue. Ça continue, toutes sortes de façons. Puis donc, comment je comprends la pratique, c'est qu'il y a un moment où on est touché par ça. Regardons ça. Au lieu de suivre chacune des affaires, de m'identifier à chacune des affaires, comment porter le plaisir d'une image ou d'un son ou d'une sensation? Comment vivre, éprouver le déplaisir d'une idée, d'un son, d'une sensation? Comment pas se braquer, s'effondrer, s'accrocher? Comment permettre aux choses de passer, d'être véritablement connues, vécues, sagement, ce serait ça le mot, hein? Sagement. Alors, ce qu'on vient pratiquer, on s'assoit au milieu de ça. Puis on se dit, tiens, on va mettre une attention qui est accrue, qui demeure présente, pour voir tout ce jeu, ce mot qui me vient à l'esprit, là. Puis les passages, les fluctuations. Hein. On est assis un moment, je suis tombé content d'être là. Je vois, c'est bien quand il parle, ça m'aide, sinon je parle de mes pensées. Ferme ta gueule. Arrête, là. Alors, on est assis là au milieu d'un monde sur lequel on n'a pas le contrôle. Il va y avoir cette température-là, ces sons-là, cette voix-là, ou l'absence de cette voix-là. Puis comment s'accompagner au milieu de ça? Comment accompagner cette sensibilité, cette conscience-là? C'est un art. Hein? On l'a un petit peu, parce qu'on a réussi à se rendre jusqu'ici. Mais quand même, il y a la possibilité, là, en tout cas dans les enseignements, on dit que c'est possible de développer de façon extrêmement sage, de vivre au milieu de cette situation un peu embarrassante, d'être un être humain sensible, six portes constamment ouvertes, hein, constamment touchées. La vue, le goût, l'audition, les autres, le cœur, la psyché, constamment touché. Puis donc, le Bouddha disait ça. Alors, comment libérer le cœur dans une telle situation? La libération, ça ne veut pas dire que ça ne va plus arriver. Tu dirais, ah, mais moi, c'est ça, là, la libération, c'est pour ça là, que ça s'arrête un peu, là, que je puisse choisir quelle stimulation arrive, tu sais. Le Bouddha, c'était ça qui est arrivé. Il flottait. Tout ce qu'il vivait était agréable. Juste des bonnes odeurs, des bons goûts. Les gens disaient ce qu'ils voulaient. Ben, entre autres, il devait être pas mal silencieux. C'est lui qui parlait. tu pourrais peut-être penser ça. Hey, j'aimerais ça, moi. Mais c'était pas ça, son expérience. Il avait mal aux pieds, il avait mal au dos. Il y a du monde qui l'haïssait, qui voulait le tuer. Son cousin. Puis les gens avec qui il pratiquait, ses disciples, on pourrait dire, ceux qui devaient l'écouter, souvent ne l'écoutaient pas. Puis on lit, quand on lit les textes, là, il leur dit, s'il vous plaît, faites pas ça, faites attention, faites pas ça, faites pas ça. Puis répétait, puis à un moment donné, les moines, les moniales, ben, il est rendu où? Puis là, tu te rends compte qu'en fait, il a fait son camp. Il a ramassé ses affaires. Heureusement, il y avait peu de choses. Un bol, une robe, une toge, quelque chose. Puis il a ramassé ses affaires, puis il s'en allait dans le bois. T'sais. Les gens ne se comportaient pas comme pour lui non plus, comme ça aurait été le plus sage, plus facile. Dans son éveil, c'était pas que tout à coup tout coulait, là, tu sais, mais cette présentation-là, une sorte de spiritualité là, dans le matérialisme spirituel là, qu'on retrouve dans plusieurs magazines, puis livres de spiritualité, puis ça, c'est comme une sorte de promesse là, que ça devrait, tu sais, tu devrais te retrouver, je sais pas où, au sommet du Mont Tremblant, là, avec vraiment une paire de Lululemon parfaite, tu sais. Puis avec le corps parfait, de la bonne forme, du bon âge, de la bonne couleur, tout ça, puis l'esprit dégagé. Puis la patte qui lève très haut. ça serait une vie spirituelle réussie. Not! Ça arrive, là, sur Instagram. ça c'est un setup. Juste pour qu'on reste accro. Là, alors, l'éveil du Bouddha, ça ne semble pas être ça, exactement. L'éveil du Bouddha, c'est une compréhension profonde de la nature de la réalité, incontrôlable, de l'expérience d'impuissance qu'on a souvent dans les situations dans lesquelles on se retrouve. Puis ceci menant à la compassion, à un cœur qui vibre, à une tendresse incroyable, à de l'humour, à de la joie. Parce que des fois, ça marche. T'sais. Mais, donc c'est ça. Alors nous, on vient ici se sensibiliser à la nature de la réalité. Hein? Alors on s'assoit, on a même peut-être une image, l'assise. Hey, certainement pas sur une chaise. Voyons, le prof, moi je reviens pas à ce cours de méditation. Lui, il est assis sur une chaise. Pas... T'sais. Il devrait être assis au sol, en lotus, complet. Puis là, on verrait bien qu'il est éveillé. Puis probablement qu'il devrait parler un français plus soutenu aussi. En tout cas, on peut plaquer plein d'images là-dessus, sur le prof, ou soi-même, là, dans la pratique, tu sais. Et en fait, de toute façon, on se sensibilise exactement à ce qui est en train de se passer. Hein, c'est comme ça. C'est de même. C'est frais comme ça, ou c'est chaud de même, ou c'est inconfortable comme ça. Puis, l'alchimie, c'est comment rencontrer ce qui est là tel que c'est. Alors, le matérialisme spirituel, ce ne serait pas de vouloir une nouvelle paire de pantalons Lululemon. Ça serait carrément du matérialisme. Mais le matérialisme spirituel, ce serait de vouloir un état particulier. De vouloir ressembler à ça intérieurement. Et donc, au moment de pratiquer, c'est beaucoup plus humble que ça. Hein. On rencontre les choses telles qu'elles sont. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Le passage, c'est par là. Par les choses exactement comme elles sont. Donc, ça peut vouloir dire être inconfortable dans la forme. Ah, moi, j'aimerais mieux qu'on fasse du qigong. Ce serait mieux. Puis là, on est juste assis. T'sais, ben, où j'aimerais justement qu'on fasse des postures. Puis là, on dit, ben non, prends cette forme-là, qui est celle-ci, juste celle-là d'être assis. Tantôt, ce serait celle de descendre les escaliers du métro Laurier. Après, ce sera celle de chercher ses clés pour ouvrir la porte. Alors, toutes les formes deviennent des formes de sensibilisation à la réalité. Ah tiens, c'est exactement comme ça en ce moment. Alors, si j'ai une expérience d'ambiguïté, je dis-tu oui, je dis-tu non par rapport à ce projet-là, ou cette affaire-là, ou cette invitation-là, je dis-tu oui, je dis-tu non? Ah, wow! L'expérience humaine, parfois, c'est comme ça. On ne sait pas exactement. Si je dis oui, qu'est-ce que je vais perdre? Que si j'avais dit non, j'aurais... On ne sait pas exactement. Hein? Il y a une part vers quoi je vais exactement. Est-ce que ça va être comme je me le représente? Ou ça va être un peu différent? Ah, c'est donc bien touchant. L'être humain, c'est pas exactement ce qui s'en vient. C'est donc bien touchant. Non, mais moi, je veux savoir. Je veux savoir. T'sais. Ben non, tu ne le sauras pas. Tu ne peux pas le savoir. C'est pas possible. Même la clairvoyante que tu vas voir, elle ne sait pas non plus. Elle dit des affaires. Pas elle, pas celle qu'elle a. On ne peut pas le savoir. la nature de la réalité, elle est faite de même. Est-ce qu'on peut apprendre à porter ça, c'est ça, là, comment être sensible? Est-ce qu'on peut apprendre à être peut-être OK avec ne pas savoir exactement? Puis peut-être être même, d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est l'expression juste ici, là, mais presque nourri par ça, ça devient poignant. Waouh! On ne sait pas ce qui s'en vient. Est-ce qu'on peut rester là, engagé, vibrant, sans savoir ce qui s'en vient exactement? Ni relationnellement, ni santé aimant, ni d'aucune façon. Alors nous, on vient s'asseoir au cœur de ça. C'est très beau comme pratique, c'est très délicat comme pratique. Puis très vite, on peut être emporté par nos schémas habituels, parce que, ben, justement, ils sont habituels, c'est plus facile pour nous d'être dedans. Puis aussi, ils sont d'une certaine façon rassurants, on est occupé, on est préoccupé. Alors nous, ici, on arrête l'occupation. Puis on s'ouvre. Est-ce que une des façons que ça se passe, je vais reprendre l'image que j'avais plus tôt là, de la pluie. Alors, le Bouddha dit de la même façon que quand il pleut dans la montagne, l'eau va à un moment donné rejoindre un ruisseau, qui va rejoindre un autre plus grand ruisseau, qui va rejoindre une rivière, puis qui va tomber dans le fleuve, qui va tomber dans l'océan. De façon qui définit la pratique, le développement de la pratique ici, c'est qu'on s'assoit, on prête attention. Prêtant attention, les choses se mettent à ressortir, deviennent réalité augmentée. Et on devient intrigué, une curiosité qui naît, qui amène de l'énergie dans le système. L'énergie, la curiosité, la présence, à un moment donné, amène une sorte d'enthousiasme, de joie. C'est donc bien intéressant d'être attentif à notre humanité. C'est donc bien intéressant d'être. J'arrête pas de prévoir ce qui s'en vient, mais si j'arrête un moment, qu'est-ce que c'est que d'être? Et là, il y a quelque chose qui s'éveille, hein? Il y a un éveil, c'est énergétique, il y a de l'énergie là-dedans. Il y a une sorte de oui, on est intrigué, on pourrait utiliser le mot enthousiasme, mais c'est bon, ben, intéressant. Et là, quand l'esprit est comme ça, intéressé, captivé de cette façon-là par la réalité, il devient moins éparpillé, hein, il est moins discursif. Tout à coup, il est unifié, il reste là. Au lieu de repartir, ah, mais j'ai oublié d'appeler Nicole, puis qu'est-ce que je fais, ça reste là. Ah, c'est quoi ça? Alors, il y a une unification de l'esprit, il devient calme, concentré, équilibré. Tout à coup, il n'est plus submergé par les opinions, les préférences, il est trop attentif, comme ça. Alors ça, c'est vraiment des qualités mentales très, 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 très fortes. C'est les facteurs mentaux de l'éveil, du développement de la sagesse. Alors nous, on vient ici, même sans savoir, c'est ça qui se passe. On prête attention, puis vous? Tu sais, on a ça des fois pendant quelques secondes, ou peut-être vous pouvez le remarquer, il y a quelqu'un hier, je parlais de ça, puis il y a quelqu'un qui disait, ah, dans mon métier, qui dans, je dirais dans la relation d'aide, qui disait, ah, dans mon métier, ce que tu viens juste de décrire, le Pascal, ça c'est le Bouddha qui dit de la même façon que l'eau, hein, ça rentre jusqu'à l'océan, de la même façon, c'est comme ça que ça se développe, puis que, oups, tout à coup, on apprend à vivre au milieu de l'expérience humaine, de sensibilité, d'incontrôlabilité, d'inconnu. Puis cette personne-là disait, wow, ce que tu viens de décrire, cet enchaînement-là de attention amène à la curiosité, amène de l'énergie, qui amène une sorte d'engagement presque joyeux, qui amène le calme, qui amène la concentration, qui amène l'équilibre mental. Elle disait, moi je le vois dans ma. Quand je rencontre, je ne sais pas si c'est un client ou un patient, mais je vois que tout à coup, je suis très intéressé par cet être-là, le phénomène, ce que cette personne-là vit. Puis tous ces facteurs-là que tu décris, ils sont là dans ce moment-là. Je suis absolument attentive, intéressée. J'ai de l'énergie, j'ai pas genre, oh, j'en peux plus, il n'y a pas de problème d'énergie. Là. Il y en a juste assez, il n'y en a pas trop, puis il n'y en a pas trop peu. Alors je suis engagé là-dedans. Puis c'est satisfaisant d'être là, même si on parle d'un problème à résoudre pour lequel on n'a peut-être pas de solution immédiatement, mais ça devient plein de réalité. Je suis équilibré, je le vois, j'ai besoin de l'être pour l'autre. Alors cette personne-là voyait ça dans son travail. Quelqu'un d'autre, peut-être un artiste, pourrait le voir dans sa création, là, dans le moment d'être en création, peut-être. Mais des fois, là, ça devient juste pour un moment. T'sais, si je vous dis, « Hey, avez-vous remarqué chez Wanderlust les lumières? C'est des bocaux. C'est des pots-maçons, carrément de bine. » D'un coup, on fait, « Ben voyons là. » Là, l'esprit s'arrête d'être discursif. « Oui, mais il faut que je fasse faire ma salle de bain. » Je ne sais pas quoi d'autre. Là, tout à coup, oups, toutes les forces de l'esprit se rassemblent autour du pot-maçon. Puis là, pendant un moment, on n'est pas dans « Qui suis-je? Que serais-je? » etc. Hein? On n'est pas accablé par « Oh, mais moi aussi, j'en veux des pots-maçons dans mon cul. Je veux être illuminé par des pots-maçons. » Alors, il n'y a pas ça pendant un moment, il y a juste la présence à ce phénomène-là. Puis là, oups, tout l'esprit est rassemblé. Pendant ce moment-là, c'est ça. Ce qui nous accable, qui suis-je, que deviendrai-je, ça tombe. Alors, ça nous indique quand même qu'il y a des façons là, de vivre, hein, d'être particulièrement présent, plutôt qu'emporté par les pensées, être éveillé à ce qui se passe. Alors ça, cet enseignement-là, 2600 ans. 2600 ans, quelqu'un disait, « Hey, psychologie, psychologie, le mot n'existe pas, il va venir plus tard, mais m'a-t-en parlé pareil. » Prête attention. L'attention la plus généreuse que tu peux donner, ça va te faire du bien. C'est sûr qu'il y a un bonbon, une sorte de jouissance dans l'éparpillement. Mais câlin, c'est de piètre qualité. C'est enchaînant, en fait. C'est connu pour être comme ça. Je suis fasciné par toutes mes pensées. Je suis chacune de mes pensées. Ça devient enchaînant. Je reste pris là-dedans. Puis après ça, je vais prendre un cours de méditation pour essayer de m'en sortir, mais je suis assis le coussin puis je continue à dire, oui, non, mais je peux aller faire quand même penser à mes affaires. Ça nous montre là à quel point on est sous l'emprise de ça. Je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, si j'ai décrit. Certains d'entre nous, parfois. Puis là, on vient développer cette sorte de présence-là. Puis là, l'idée, ce serait de l'intégrer dans la réalité. Alors, d'être assis ici. Donc, c'est une présence qui est incarnée, là, qui est vraiment dans le corps. Puis donc, pour plusieurs d'entre nous, il va y avoir véritablement une pratique, là, quelque chose à apprivoiser, parce qu'on a abandonné le corps, on l'a jugé. Parce que tout nous indiquait là, que c'était pas le bon, là, d'une façon ou d'une autre. On l'a abandonné parce qu'il était attaqué de différentes façons, là. Donc, l'intelligence que nous, on développe, c'est une intelligence qui inclut, là, tu sais, quand quelque chose t'indique, là, quelque chose, ça, tout à coup, t'as la chair de poule. Hein, c'est cette intelligence-là qui reconnaît les choses. L'intelligence du ventre. Même, c'est ça, la peau du dos, le bassin, les jambes, les pieds, les mains. Alors, on veut laisser notre intelligence, notre sensibilité être vraiment vivante dans tout le corps. C'est pas une intelligence comme de la raison, là. C'est pas une intelligence conceptuelle, discursive. C'est une autre forme de connaissance de la réalité. Une autre façon d'aborder, de rencontrer la réalité. Alors on développe ça. On apprend à ressentir ça, qu'on a peut-être abandonné ici, ressentir ça, qu'on a jugé ou abandonné. Revenir là-dedans, sentir ça. Là-dedans, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'intégrité. Puis on va le voir, après, en se mettant à pratiquer ça, on va voir des choses très intéressantes. Et tout à coup, quelqu'un me parle, puis j'abandonne tout le corps pour essayer de performer l'écoute idéale. T'sais. Puis, waouh, je me suis complètement abandonné cette intelligence-là pour. Où je sens que là, il faut que je prenne quelque chose, que là, je décroche pour essayer de poigner de l'information. T'sais. Puis donc là, il peut y avoir quelque chose qui est rétabli. Hein. Attends, non, je vais écouter d'ici, je vais ressentir d'ici. Si j'ai à penser à mes affaires, je veux penser d'ici. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux que ce soit cette intelligence-là qui se mette à répondre avec, à cette question-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux pas que ce soit juste du compulsif agité, là. Ça ne sera pas des bonnes réponses. Alors ici, on vient développer ça, une écoute qui est incarnée. Là. D'ailleurs, pendant que j'en parle, ça pourrait être une bonne chose de l'explorer. Est-ce que ça a lieu en ce moment? Questions? Commentaires? Objections? Alors, l'attention, la présence qu'on amène, c'est pas une attention qui veut obtenir quelque chose. Très important. Elle ne veut pas obtenir quelque chose. Si elle veut obtenir quelque chose, on s'en rend compte. Ah, tiens, je cherche à obtenir quelque chose. Et c'est une autre sorte d'attention. La pleine conscience ou présence attentive, elle veut juste connaître ce qui est là. Elle veut se sensibiliser à ce qui est là. Alors, c'est bien de savoir ça, même intellectuellement, au moment d'aller pratiquer. Ah oui, c'est pas dans le, on n'est pas dans l'obtention de quelque chose. On est dans la rencontre avec ce qui est là. On n'est pas non plus dans le jugement. Ça ne devrait pas avoir lieu. Quelque chose d'autre devrait avoir lieu. Ah, c'est comme ça. C'est exactement comme ça en ce moment. Très, très humble. Il y a une fraîcheur aussi. Ça, c'est un aspect très important dans le sens où, pour utiliser l'expression anglaise, « don't know mind ». Don't know mind, comme si on n'avait jamais vécu cette expérience-là. Comme si on n'avait jamais été une gang de monde assis comme ça dans une salle à considérer des affaires de même. Comme si c'était jamais arrivé. Une sorte de fraîcheur. Comme si on n'avait jamais été dans cette pièce ou dans ce corps. Comme si on n'avait jamais entendu des sons ou ressenti des sensations de la poitrine. Il y a une fraîcheur là, qui est très, très, très libératrice. Hein? Ça nous dégage de l'ennui, du voile de l'habitude. Alors, il y a un prof qui dit, en parlant de ça, il dit « reactualizing memory ». Alors, une version plus fraîche de la réalité. Au lieu de « ben ouais, je connais ça, la réalité, ça fait déjà quelques décennies, je suis dedans. » Mais qu'est-ce que c'est? Là, en ce moment, un exercice très intéressant qu'un de mes profs faisait avec un membre de sa famille à chaque, je sais pas, c'est à chaque année ou en tout cas à chaque moment donné. Il s'assoit un en face de l'autre, ils se regardent comme ça, des gens qui se connaissent depuis plusieurs décennies. Ils s'assoient comme ça, ils se regardent. Puis là, cette histoire-là me vient de Eugene Cash. Alors Eugene dit à la personne, le membre de sa famille avec qui il est là, dit « Je ne suis pas Eugene. » Puis la personne lui dit « Je ne suis pas Nathalie. » Et ça, c'est un exercice pour retirer le voile de l'habitude. Est-ce que vous me suivez un peu? Puis en disant « Je ne suis pas Pascal. » Du coup, il y a « Ah, mais qui est là? Allons voir. » Parce que des fois, on a une version un peu datée là, de l'autre. Hein? De l'autre, que ce soit une collègue ou même un partenaire. Tu sais. Puis des fois, on est étonné. La personne arrive et dit ben, « J'ai changé, d'ailleurs je pars. » On dit « Non, c'est toi, t'es la même personne, t'as toujours été pareil. » « Mais non, j'ai changé. » T'étais tellement habitué, tu ne voyais plus ce qui se passait. Alors nous, c'est un peu ça qu'on développe. Là. On s'éveille à ça. Alors, vous pouvez le faire, même secrètement, ici, maintenant, ou ce soir, en rentrant à la maison. Tu n'es pas un chat. Tu n'es pas Lily le chat. Juste pour voir, tout à coup, qu'est-ce qui va apparaître, là, fraîchement. Hein? Et moi, j'aime beaucoup parler cet exercice-là. Je l'ai pratiqué. Tu n'es pas. Juste pour dégager l'affaire un peu dull, un peu flat, la bidimensionnalité qui s'est installée. Alors ici, c'est ce qu'on fait, mais dans la série. C'est pas avec l'autre, c'est avec l'expérience. Qu'est-ce que si... C'est intéressant, surtout ce son-là, particulièrement pour moi, en tout cas, il éveille des choses. Je ne peux pas l'entendre sans qu'il y ait quelque chose qui se mette en alerte, justement. Là. Puis, c'est comme si tout à coup, là, la nature instable des choses est révélée. Là. Quelque chose de mal tourné à quelque part. Là. Est-ce qu'on peut permettre à ceci d'avoir lieu et d'être connu? Ok, essayons-le un petit peu. On peut le faire debout, assis. Si on le fait coucher, ben, l'idée, ce serait de ne pas toucher à quelqu'un d'autre, puis aussi d'être éveillé, parce que c'est ça qu'on pratique. On pratique l'éveil. Mais on peut très bien, si on veut, se mettre debout pour quelques minutes. Le Bouddha parlait de la pratique assise, debout, en marchant, couché. Dans toutes les postures entre. Faisons ça pour une quinzaine de minutes. Mais un moment à la fois. Même s'il y a une vague là, de fatigue, de découragement, j'y arriverai jamais, ça m'intéresse même pas. Dans la pratique, on peut embarquer ça dans la pratique, c'est inclus. Ah, vague de découragement, vague d'espoir, vague de clarté, vague de tendresse, de calme. Nous invite à devenir particulièrement conscient de l'expérience sensorielle. Conscience parfois de l'état d'esprit, l'humeur, la qualité de l'esprit. La personne qui médite. Aussi à être sensible à l'expérience de plaisir, de déplaisir, devenir conscient, éveillé à ceci pendant que ça a lieu, quand ça a lieu. S'intéresser au goût du plaisir, à l'expérience du déplaisir. Les choses, un phénomène, un événement et ni l'un ni l'autre aussi être particulièrement attentif à neutre ni plaisant ni déplaisant, c'est donc bien intéressant. forme particulière du discernement, c'est de savoir qu'une pensée est une pensée. Très souvent, on n'est pas conscient de ça. Pendant qu'une pensée, on perd cette forme de jugement-là, de discernement, cette sagesse. De liberté possible là-dedans, et souvent prise d'une imagerie, d'une histoire inexistante. On se sent un peu perdu, confus. Il s'agit de se laisser connaître un phénomène présent, une expérience sensorielle. Juste voir si ça peut être connu pleinement, l'audition, l'expérience de la respiration. Reste là un tout petit peu, mais on va découvrir sûrement autre chose. Peut-être comment est l'attitude, l'état mental de la personne qui écoute les sons ou ressent la respiration. peut-être que ce qui va être révélé, ça va être la nature dynamique, fluctuante, changeante de l'expérience, quelle qu'elle soit. Le paysage sonore et vivant, le corps respirant et vivant, même l'attention est vivante, même l'ennui est quelque chose de vivant. Pas dupe des mouvements de l'esprit, hein, mais éveillé à ceux-ci, qu'il s'agisse de pensées qui passent, ou d'humeur qui soit là, si une vague de frustration, pas dupe, mais éveillé, ah, vague de frustration, on ressent dans le corps, vague d'agitation, peut-être de contentement, peut-être que ça apparaît plein de réalité en ce moment. façon de parler de la chaîne là, d'événements, là, de causalité dont j'ai parlé, là, de ceci mène à ceci et puis mène à ceci. En fait, on pourrait dire aussi qu'il y a quelque chose qui s'équilibre hein, en soi. Alors, les facteurs énergisants de l'esprit naissent et sont développés, puis les facteurs calmants. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose, ça devient ressenti, là, pas, c'est pas juste de la théorie. On ressent tout à coup à la fois une sorte d'apaisement en soi, puis d'éveil, il y a quelque chose d'éveillé, d'engagé, là, de vibrant. Alors ça, c'est des conditions vraiment bien pour vivre la vie, là. La vie de quoi que ce soit là, qui fait notre vie. Là, puis je me souviens, j'ai eu quelquefois la chance d'enseigner sur des longues retraites. Alors les gens, j'en ai fait, mais ce dont je veux parler là, c'est les moments où j'enseignais. Les gens venaient faire peut-être 4 semaines ou 6 semaines de retraite de silence, méditant peut-être 8 à 12 heures par jour. Puis un moment après quelques semaines où, donc, moi, ma job, entre autres, c'est de rencontrer les gens tous les quelques jours, ou peut-être aux 2 jours, de voir comment ça se passe. Là, ça fait 48 heures que tu es en silence dans une pratique assez intense. Qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Et après quelques semaines, les gens ont mis beaucoup, beaucoup d'heures, là. Donc, quand ils arrivaient pour s'asseoir en face de moi pour parler, j'étais, mettons, j'étais dans la vie, là, alors la personne s'assoyait, puis je disais, excuse-moi, je suis un petit peu en retard, tu sais. Puis là, il y avait, tout à coup, j'étais comme, la personne était incroyablement stable, calme et présente. Il n'y avait pas, ça jouait, tu sais, c'était pas très agité dans l'esprit. Puis je disais, hey, excuse-moi, je suis un petit peu en retard. Fait que, j'étais, ouais, pas de problème, Pascal. là, je suis, puis c'était très poreux, hein. Puis le Bouddha disait ça, il disait, si tu veux développer ces qualités-là, tiens-toi avec le monde qui les ont. Puis comme ça, c'est ça qu'on fait, les êtres humains, les uns pour les autres. On peut se repasser des affaires pas très belles, mais on peut aussi se soutenir comme ça. Puis donc, à ce moment-là, moi, j'étais dans le rôle du prof, l'autre personne était dans le rôle de l'étudiant, peut-être. Mais en fait, l'échange, pour moi, c'était très, très clair, là, que c'est moi qui bénéficiais. Alors, je posais des questions, mais en fait, c'était juste pour être exposé à la personne qui avait un esprit très, très calme. T'sais. Puis, comme j'avais appris à connaître cette personne-là, peut-être au cours des années de pratique, certainement au cours du mois ou des 6 semaines de pratique, je voyais la personnalité, elle était toujours là, mais ce qui était à l'avant-plan, c'était vraiment ces qualités-là. C'est comme si les gens devenaient des allégories. Hein. Ils représentaient, comme dans Shakespeare, par exemple, un personnage va devenir beaucoup plus de l'avidité ou de la haine. Il disparaît quasiment. Puis ce qui est à l'avant-plan, ça va être cette affaire-là, cette charge-là. Puis là, dans le sens un peu contraire, on pourrait dire, alors avec ces personnes-là, tout à coup, on avait la personnalité est encore là, mais ce qui était palpable, c'était le calme, le sorte de ressourcement intérieur. Hein. Puis c'est décrit comme ça dans les textes, c'est comme si tout à coup on devient un lac, mais que sa source sort de la terre, là. Il y a toujours de l'eau fraîche. Sort de ce qui nourrit le lac. Là, donc, l'eau fraîche, la personne est incroyablement calme, mais elle n'est pas calme, hein. Déconnectée, indifférente, elle est calme, vibrante, vivante, intelligente. Ça, c'est très beau. Là. On peut développer ça pour vivre comme ça, mais aussi que ça soit notre contribution. T'sais. C'est ça qu'on peut amener à notre société, là, puis à nos relations, quelles qu'elles soient, c'est une bonne chose. Hein? Une sorte de calme, stabilité, puis vivant, là, pas déconnecté. Là. Ok, alors je me souhaite ça. Je me souhaite qu'on se donne accès à ça, qu'on se donne les moyens de cultiver ça, de valoriser ça, plutôt que les autres affaires qu'on valorise sans savoir. Là. Ok. Alors, bonne semaine. En sortant, vous allez voir que, comme d'habitude, il devrait y avoir un pot maçon. Et c'est pour y déposer des sous pour soutenir Wanderlust qui nous accueille ici. Alors ça, c'est pour une entreprise. Là, s'il y a quand même une prise de risque, hein, de ne pas charger comme ça. Et l'enseignant non plus n'est pas payé, comme vous le savez. Il y a peut-être l'envie de prendre soin de cet être-là. Si vous avez ça, c'est très beau, c'est très touchant. Je vous remercie. Ça va me permettre de me loger, me nourrir, recevoir des soins. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quatre requisites. Alors, les vêtements, le toit, les médicaments et la nourriture. Alors, merci pour ça. Bonne semaine.
Merci. Merci.
Thank you.